Texte numéro 1-1. Lisez la consigne du test numéro 1-1. Lisez les questions. Vous avez 3 minutes pour le faire.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Deux triples étoilés, 50 nouveaux étoilés, la livraison 2018 du fameux guide Michelin a été rendue publique hier avec son lot de récompenses pour les restaurateurs français les plus en vue. Mais avec de grands chefs qui demandent à quitter le précieux guide rouge, Sébastien Brasse pour ne pas le nommer, la mort de Paul Bocuse, inspirateur de tous les grands chefs français, la multiplication des classements internationaux où ils ne sont pas franchement dominants et des initiatives gouvernementales pour mettre en avant la gastronomie française. Ce qui prouve que ce n'est plus si évident. La cuisine française a peut-être de quoi se mettre à douter d'elle-même. La gastronomie française est-elle toujours au sommet? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Chihiro Masui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain culinaire et journaliste gastronomique, auteur de Astrance, le livre de cuisine. C'est avec le chef triple étoilé Pascal Barbeau. Et comme votre nom l'indique, vous êtes japonaise. Oui. Et Patrick Rambourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires, auteur du livre Histoire de la cuisine et de la gastronomie française aux éditions Perrin et de l'art de la table aux éditions Citadel et Mazenet. Les 50 meilleurs restaurants du monde. C'est un classement qui est publié chaque année et pour lequel votent aussi bien des chefs que des critiques gastronomiques. Dans la dernière édition, il y a 6 restaurants français. Le mieux classé, c'est le Mirazur à Menton, dans le sud du pays. Il est 4e, donc au pied du podium. Et les 5 autres sont au-delà de la 10e place. Et c'est un progrès, car les années précédentes, c'était pas aussi bien. Faut-il s'en inquiéter, Chihiro Masui?
Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas, parce que les 50 best, enfin les 50, mm-hmm. Voilà, les 50 best, comment dire, récompense en général à un certain type de cuisine qui pour moi est complètement contraire à la cuisine française. Des cuisines sans sauce où on mange si je caricature, c'est une cuisine où on va plus vous encourager à manger ce qu'on trouve dans la forêt, dans la jungle amazonienne, des racines qu'on a déterrées au Danemark, en fait des choses comme ça. Et ce n'est pas pour moi, ce ne sont pas des cuisines qui sont très cuisinées comme la cuisine française peut l'être.
D'accord.
Voilà, ouais. Comme un civet de lièvre, le lièvre à la royale par exemple, qui demande une semaine de préparation, des sauces mijotées, réduites, tout
vous,
ça.
Vous y voyez plus des assemblages quelque part
J'y vois comme une sorte de contre-courant à tout ce qui a dominé le monde culinaire jusqu'à aujourd'hui, à savoir quand même à la base la cuisine française, la cuisine d'Escoffier. On y revient ces dernières années, mais vraiment ces dernières années.
Patrick Rambourg, est-ce que cette concurrence nouvelle, est-ce qu'elle est inquiétante pour les chefs français?
Non, elle n'est pas inquiétante. Donc la cuisine française, elle a une très très longue histoire. On peut même la faire démarrer avec le Moyen-Âge, enfin Moyen-Âge 14e, 15e siècle. Et il est vrai qu'elle a eu une hégémonie, cette cuisine française, depuis le 17e siècle, jusque pratiquement à la fin du 20e siècle, jusqu'à la nouvelle cuisine du 20e siècle. Aujourd'hui, elle n'a plus cette hégémonie. Elle n'a plus cette hégémonie, mais elle est toujours un modèle. Alors, il est vrai qu'on a des pays qui, traditionnellement, n'avaient pas développé une culture culinaire. Bon, je pense à des pays nordiques, je pense à l'Angleterre ou bien d'autres pays, qui aujourd'hui mettent en avant une cuisine.
Depuis 10-15 ans,
oui. Une cuisine très bien, sophistiquée, etc. Il y a un vrai renouveau culinaire dans le monde entier. Alors il est vrai que... on peut voir ça comme une concurrence de la cuisine française, mais en même temps, toute cette nouvelle cuisine, elle s'appuie sur le modèle français.
Les promoteurs de ces classements évoquent une cuisine qui n'a pas su évoluer, qui ne crée plus. C'est vrai ça, Chihiro Masui ou
Non, je ne pense pas.
C'est vrai qu'ils le disent, mais
C'est vrai qu'ils le disent, mais je ne suis pas d'accord parce que tout dépend de ce qu'on appelle la créativité. Par exemple, les chefs qui sont dans les top 50, ceux-là même continuent à utiliser des bases de la cuisine française. Donc, est-ce que c'est plus créatif de manger des racines, telles quelles, ou est-ce que c'est plus créatif de se baser sur une sauce, par exemple une mayonnaise, qu'on va transformer ou qu'on va réinventer? Tout dépend de ce qu'on appelle la créativité. Mais la cuisine française, il suffit de voir plein d'exemples, même à Paris, comme Christophe Pellet, le chef Christophe Pellet au Clarence, ou Pascal Barbeau. Il y a énormément de créativité.
Alors, les chefs français se tournent peut-être davantage depuis quelques années vers la bistronomie. C'est un mouvement qui a été lancé par Yves Cantebord, plutôt que vers la haute cuisine. D'où est-ce qu'il y a peut-être à cause de ça ou grâce à ça un recul dans ce type de classement, Patrick Rambourg?
Non, je pense pas. Il y a clairement eu ces dernières années une volonté quelque part de taper un peu sur la cuisine française. Ça va même au-delà de la cuisine française. J'aurais tendance à dire que c'est taper sur ce qui est France et pays, en fait, la France. Donc il y a vraiment eu, comme on a passé, une sorte de French bashing,
voilà. Qui s'étend à la cuisine.
Alors, il est vrai qu'on a pu critiquer la cuisine. La cuisine, elle a eu son succès de quelle manière? La cuisine française, elle a eu son succès parce que c'est une haute cuisine, c'est une grande cuisine, c'est une cuisine. Quand vous avez un restaurant français à l'étranger, ce restaurant est systématiquement classé comme un restaurant de grande cuisine. C'est toute la différence, par exemple, si on compare avec la cuisine italienne, qui s'est diffusée dans le monde entier, mais d'abord avec une cuisine populaire. Nous, on ne s'est pas diffusé avec une cuisine populaire, on s'est diffusé plutôt avec une cuisine professionnelle, artistique, d'emblée. Et en même temps, qui représentait l'image de ce pays. Alors, à l'époque de l'Ancien Régime, c'était le Royaume de France, et après, c'était la République, etc. Et donc, c'est ça qui se passe. Mais la cuisine française s'est toujours modernisée, elle a toujours su évoluer dans l'histoire.
Alors, si on regarde, par exemple, l'exemple du Japon, le Japon et la France ont une histoire qui remonte à plus d'un siècle d'échanges et de respect mutuel. Alors, je dirais quand même beaucoup plus d'admiration de la part du Japon pour la France que le contraire, quand même.
Mais il y a quand même de la curiosité des Français pour les Japonais.
Aujourd'hui,
le défunt Paul Bocuse était un des premiers à y aller.
Oui, mais ça date quand même des années 70. Alors que, par exemple, il y avait un Japonais qui travaillait dans les cuisines du Ritz à l'époque où Escoffier était chef au Ritz. Et ce gars-là est rentré au Japon et est devenu le cuisinier de l'empereur. Voilà. Donc, bon, il y a quand même une grande histoire. Et aujourd'hui, au Japon, enfin, depuis quelques années au Japon, les gens préfèrent aller dans un restaurant effectivement italien parce que c'est plus casual, c'est plus friendly, c'est plus cool. Alors que dans les restaurants français, c'est guindé, il faut savoir se tenir, il faut savoir quelle fourchette utiliser avec quel plat, etc.
Il y a peut-être un petit peu d'arrogance parfois de la part des restaurateurs français ou c'est parfois l'image que les Français ont dans le monde, un peu d'honneur de leçon.
Oui, mais ça c'est une caractéristique française qui pour moi n'est pas ce n'est pas intentionnel. Mmh. C'est le ton qui fait ça, mais ce n'est pas l'objectif.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Deux triples étoilés, 50 nouveaux étoilés, la livraison 2018 du fameux guide Michelin a été rendue publique hier avec son lot de récompenses pour les restaurateurs français les plus en vue. Mais avec de grands chefs qui demandent à quitter le précieux guide rouge, Sébastien Brasse pour ne pas le nommer, la mort de Paul Bocuse, inspirateur de tous les grands chefs français, la multiplication des classements internationaux où ils ne sont pas franchement dominants et des initiatives gouvernementales pour mettre en avant la gastronomie française. Ce qui prouve que ce n'est plus si évident. La cuisine française a peut-être de quoi se mettre à douter d'elle-même. La gastronomie française est-elle toujours au sommet? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Chihiro Masui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain culinaire et journaliste gastronomique, auteur de Astrance, le livre de cuisine. C'est avec le chef triple étoilé Pascal Barbeau. Et comme votre nom l'indique, vous êtes japonaise. Oui. Et Patrick Rambourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires, auteur du livre Histoire de la cuisine et de la gastronomie française aux éditions Perrin et de L'art de la table aux éditions Citadelle et Mazenet. Les 50 meilleurs restaurants du monde. C'est un classement qui est publié chaque année et pour lequel votent aussi bien des chefs que des critiques gastronomiques. Dans la dernière édition, il y a 6 restaurants français. Le mieux classé, c'est le Mirazur à Menton, dans le sud du pays. Il est 4e, donc au pied du podium. Et les 5 autres sont au-delà de la 10e place. Et c'est un progrès, car les années précédentes, c'était pas aussi bien. Faut-il s'en inquiéter, Chihiro Masui?
Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas, parce que les 50 best, enfin les 50, les 50 best, récompensent en général un certain type de cuisine qui pour moi est complètement contraire à la cuisine française. Des cuisines sans sauce, où on mange si je caricature, c'est une cuisine où on va plus vous encourager à manger ce qu'on trouve dans la forêt, dans la jungle amazonienne, des racines qu'on a déterrées au Danemark, en fait des choses comme ça. Et ce ne sont pas des cuisines qui sont très cuisinées comme la cuisine française peut l'être.
D'accord.
Voilà, ouais. Comme un civet de lièvre, le lièvre à la royale par exemple, qui demande une semaine de préparation, des sauces mijotées, réduites, tout
vous,
ça.
Vous y voyez plus des assemblages quelque part
J'y vois comme une sorte de contre-courant à tout ce qui a dominé le monde culinaire jusqu'à aujourd'hui, à savoir quand même à la base la cuisine française, la cuisine d'Escoffier. On y revient ces dernières années, mais vraiment ces dernières années.
Patrick Rambourg, est-ce que cette concurrence nouvelle, est-ce qu'elle est inquiétante pour les chefs français?
Non, elle n'est pas inquiétante. Donc la cuisine française, elle a une très très longue histoire. On peut même la faire démarrer avec le Moyen-Âge, enfin Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Et il est vrai qu'elle a eu une hégémonie, cette cuisine française, depuis le 17e siècle, jusque pratiquement à la fin du 20e siècle, jusqu'à la nouvelle cuisine du 20e siècle. Aujourd'hui, elle n'a plus cette hégémonie. Elle n'a plus cette hégémonie, mais elle est toujours un modèle. Alors, il est vrai qu'on a des pays qui, traditionnellement, n'avaient pas développé une culture culinaire. Bon, je pense à des pays nordiques, je pense à l'Angleterre ou bien d'autres pays, qui aujourd'hui mettent en avant une cuisine.
Depuis 10-15 ans,
oui. Une cuisine très bien, sophistiquée, etc. Il y a un vrai renouveau culinaire dans le monde entier. Alors il est vrai que... On peut voir ça comme une concurrence de la cuisine française, mais en même temps, toute cette nouvelle cuisine, elle s'appuie sur le modèle français.
Les promoteurs de ces classements évoquent une cuisine qui n'a pas su évoluer, qui ne crée plus. C'est vrai ça, Chihiro Masui ou
Non, je ne pense pas.
C'est vrai qu'ils le disent, mais
C'est vrai qu'ils le disent, mais je ne suis pas d'accord parce que tout dépend de ce qu'on appelle la créativité. par exemple, les chefs qui sont dans les top 50, ceux-là même continuent à utiliser des bases de la cuisine française. Donc, est-ce que c'est plus créatif de manger des racines, telles quelles? Ou est-ce que c'est plus créatif de se baser sur une sauce, par exemple une mayonnaise, qu'on va transformer ou qu'on va réinventer? Tout dépend de ce qu'on appelle la créativité. Mais la cuisine française, il suffit de voir plein d'exemples, même à Paris, comme Christophe Pellet, le chef Christophe Pellet au Clarence, ou Pascal Barbeau. Il y a énormément de créativité.
Alors, les chefs français se tournent peut-être davantage depuis quelques années vers la bistronomie. C'est un mouvement qui a été lancé par Yves Cantebord. Plutôt que vers la haute cuisine, d'où est-ce qu'il y a peut-être à cause de ça ou grâce à ça un recul dans ce type de classement, Patrick Rambourg ou...
Non, je pense pas. Il y a clairement eu ces dernières années une volonté quelque part de taper un peu sur la cuisine française. Ça va même au-delà de la cuisine française. J'aurais tendance à dire que c'est taper sur ce qui est France et pays en fait, la France. Mmh. Donc il y a vraiment eu, comme on appelle ça, une sorte de French bashing.
Qui s'étend à la cuisine.
Alors, il est vrai qu'on a pu critiquer la cuisine. La cuisine, elle a eu son succès de quelle manière? La cuisine française, elle a eu son succès parce que c'est une haute cuisine, c'est une grande cuisine, c'est une cuisine. Quand vous avez un restaurant français à l'étranger, ce restaurant est systématiquement classé comme un restaurant de grande cuisine. C'est toute la différence, par exemple, si on compare avec la cuisine italienne, qui s'est diffusée dans le monde entier, mais d'abord avec une cuisine populaire. Nous, on ne s'est pas diffusé avec une cuisine populaire, on s'est diffusé plutôt avec une cuisine professionnelle artistique d'emblée, et en même temps qui représentait l'image de ce pays. Alors, à l'époque de l'Ancien Régime, c'était le Royaume de France, et après c'était la République, etc. Et donc, c'est ça qui se passe. Mais la cuisine française s'est toujours modernisée, elle a toujours su évoluer dans l'histoire.
Alors, si on regarde, par exemple, l'exemple du Japon, le Japon et la France ont une histoire qui remonte à plus d'un siècle d'échanges et de respect mutuel. Alors, je dirais quand même beaucoup plus d'admiration de la part du Japon pour la France que le contraire, quand même. Mais
il y a quand même de la curiosité des Français pour les Japonais.
Aujourd'hui,
le défunt Paul Bocuse était un des premiers à y aller.
Oui, mais ça date quand même des années 70. Alors que, par exemple, il y avait un Japonais qui travaillait dans les cuisines du Ritz à l'époque où Escoffier était chef au Ritz. Et ce gars-là est rentré au Japon et est devenu le cuisinier de l'empereur. Voilà. Donc, bon, il y a quand même une grande histoire. Et aujourd'hui, au Japon, depuis quelques années au Japon, les gens préfèrent aller dans un restaurant effectivement italien parce que c'est plus casual, c'est plus friendly, c'est plus cool. Alors que dans les restaurants français, c'est guindé, il faut savoir se tenir, il faut savoir quelle fourchette utiliser avec quel plat, etc.
Il y a peut-être un petit peu d'arrogance parfois de la part des restaurateurs français c'est parfois l'image que les Français ont dans le monde, un peu donneur de leçons.
Oui, mais ça, c'est une caractéristique française qui, pour moi, n'est pas, ce n'est pas intentionnel. Mmh. C'est le ton qui fait ça, mais ce n'est pas l'objectif.
Répondez aux questions.
Vous avez pour cela 2 minutes.
Texte numéro 1-2. Lisez la consigne du test numéro 1-2. Lisez les questions.
Vous avez pour cela 2 minutes.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Je me souviens quand j'étais ado, j'ai été voir Le Dernier Samouraï au cinéma. Et quand je suis sorti de la salle, peut-être que vous l'avez ressenti aussi, mais personnellement j'avais envie de lutter contre l'oppresseur à coups de katana. Aujourd'hui, on va donc voir si la vision des samouraïs véhiculée par le film est fidèle à ce qu'ils étaient réellement. Pour l'occasion, on va donc faire un peu d'histoire, dégommer quelques clichés, et apprendre que, comme d'habitude dans les films historiques, il y a quelques libertés qui sont prises avec la réalité. Allez, c'est parti. Le Dernier Samouraï, c'est l'histoire d'un soldat américain alcoolique, Tom Cruise, alias Nathan Algren dans le film, envoyé au Japon pour aider le jeune empereur Meiji à former son armée aux techniques de guerre militaire occidentale et au passage à écraser une rébellion qui agite le pays. Une rébellion menée par le légendaire samouraï Katsumoto, qui était jadis un des généraux de l'empereur. Malheureusement pour Algren, tout ne se passe pas vraiment comme prévu et à la première escarmouche, il se fait capturer par les vilains rebelles, laissant ses potes américains continuer la formation des soldats de l'empereur. Piégé dans un petit village durant tout l'hiver, Nathan découvre au fur et à mesure que la vie est douce et belle du côté des samouraïs, que leur philosophie de vie est saine, et que finalement les méchants, ce n'est peut-être pas ceux qu'ils croient. Après s'être intimement rapproché de la femme du samouraï qu'il avait tué durant sa capture, il rejoint donc les rebelles et combat arme au poing contre ses anciens alliés. C'est beau, hein, ça donnerait presque envie de rejoindre la scientologie. Ah, je m'étais dit qu'il fallait pas que je la fasse cette blague. Bref. Le Dernier Samouraï, ça reste un sacré bon divertissement, et pour moi, il est à jamais rangé dans ma rubrique film sacré de mon adolescence que j'aimerais toujours, même si on me prouve par A plus B que c'est tout naze. Mais si j'ai pu vénérer un film de Mel Gibson qui pourtant était une bouse historique sans que je le sache, est-ce que niveau cohérence historique, Le Dernier Samouraï est dans les clous ? Eh bien, c'est pas la folie non plus, même si c'est moins grave. Pour comprendre l'objet du film, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le film, puisque Le Dernier Samouraï, c'est en fait la fin d'une époque et le début d'une autre. En l'occurrence, on passe ici de la fin de l'époque Edo au début de l'ère Meiji vers la fin du 19e siècle. On va laisser le film de côté pour l'instant, donc, pour s'intéresser à ces périodes et à leurs caractéristiques, ainsi qu'à l'évolution de la place du samouraï au sein de la société japonaise. On sort donc un peu des sentiers du film, mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'intéresser à cette période de l'histoire japonaise. Bref, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un samouraï ? À l'origine, c'est un militaire d'élite, un cavalier qui est au service de son seigneur et dédie sa vie au combat. Les samouraïs règnent sur le Japon à partir du 12e siècle et suivent un code d'honneur très strict, le Bushido, littéralement la voie du guerrier, même si ce nom de Bushido n'apparaîtra que 5 siècles plus tard. Dans ce code d'honneur, si le samouraï apporte le déshonneur sur lui, sur sa famille ou sur ses supérieurs, il doit se faire seppuku, un rite, un suicide, qui consiste à s'ouvrir le ventre à l'aide de son sabre puisque le ventre chez les Japonais est là où réside le courage. Alors qu'on soit clair, hein, le samouraï, pour se faire seppuku, il utilise un petit sabre qu'il a en plus de son grand sabre, le katana, parce qu'avec le grand sabre, eh bien, ça serait un peu compliqué. Alors ça peut paraître un peu extrême, hein, comme pratique, mais c'est dans leur mœurs, et parfois, eh bien, les shoguns, les chefs militaires donc, sont obligés d'interdire la pratique du seppuku, puisque leurs soldats se suicident systématiquement lorsque leur maître meurt. Jusqu'au XVIe siècle, il n'existe pas de profil type de samouraï. Chacun fait un peu comme il l'entend, et le statut n'est pas clairement délimité, ce qui changera considérablement à l'époque Edo. Cette précision faite, on va se replonger au milieu du XVe siècle, où deux grandes familles, les Hosokawa et les Yamana, sont très fortes dans le pays et se battent pour le pouvoir. C'est la guerre civile d'Honin qui dure près de 10 ans et qui voit des centaines de milliers de soldats s'affronter. Au terme de ce conflit, le territoire est profondément divisé et de nombreux combats éclatent entre les clans, que cela soit pour des causes sociales, économiques ou politiques. C'est ce que l'on nomme la période Sangoku, et pour tout résumer en une petite phrase, eh bien... C'est la merde. Les guerres font des ravages, les famines emportent les civils, et des tremblements de terre viennent tasser tout ça pour finir le boulot. C'est dans ce contexte assez difficile que certains hommes, à partir de la fin du XVIe siècle, tentent d'unifier le Japon. Et quand je dis certains, on retient surtout trois hommes qui sont considérés dans l'histoire comme des unificateurs. Tout d'abord Oda Nobunaga, qui prend la tête de son clan et qui défonce suffisamment d'autres seigneurs pour contrôler une grosse partie du Japon. Mes chers camarades, bien le bonjour. Je me souviens quand j'étais ado, j'ai été voir Le Dernier Samouraï au cinéma. Et quand je suis sorti de la salle, peut-être que vous l'avez ressenti aussi, mais personnellement j'avais envie de lutter contre l'oppresseur à coups de katana. Aujourd'hui, on va donc voir si la vision des samouraïs véhiculée par le film est fidèle à ce qu'ils étaient réellement. Pour l'occasion, on va donc faire un peu d'histoire, dégommer quelques clichés, et apprendre que, comme d'habitude dans les films historiques, il y a quelques libertés qui sont prises avec la réalité. Allez! C'est parti. Le Dernier Samouraï, c'est l'histoire d'un soldat américain alcoolique, Tom Cruise, alias Nathan Algren dans le film, envoyé au Japon pour aider le jeune empereur Meiji à former son armée aux techniques de guerre militaire occidentale et au passage à écraser une rébellion qui agite le pays. Une rébellion menée par le légendaire samouraï Katsumoto, qui était jadis un des généraux de l'empereur. Malheureusement pour Algren, tout ne se passe pas vraiment comme prévu et à la première escarmouche, il se fait capturer par les vilains rebelles, laissant ses potes américains continuer la formation des soldats de l'empereur. Piégé dans un petit village durant tout l'hiver, Nathan découvre au fur et à mesure que la vie est douce et belle du côté des samouraïs, que leur philosophie de vie est saine, et que finalement les méchants, ce n'est peut-être pas ceux qu'ils croient. Après s'être intimement rapproché de la femme du samouraï qu'il avait tué durant sa capture, il rejoint donc les rebelles et combat arme au poing contre ses anciens alliés. C'est beau, hein, ça donnerait presque envie de rejoindre la scientologie. Ah, je m'étais dit qu'il fallait pas que je la fasse cette blague. Bref. Le Dernier Samouraï, ça reste un sacré bon divertissement, et pour moi, il est à jamais rangé dans ma rubrique film sacré de mon adolescence que j'aimerais toujours, même si on me prouve par A plus B que c'est tout naze. Mais si j'ai pu vénérer un film de Mel Gibson qui pourtant était une bouse historique sans que je le sache, est-ce que niveau cohérence historique, Le Dernier Samouraï est dans les clous ? Eh bien, c'est pas la folie non plus, même si c'est moins grave. Pour comprendre l'objet du film, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le film, puisque Le Dernier Samouraï, c'est en fait la fin d'une époque et le début d'une autre. En l'occurrence, on passe ici de la fin de l'époque Edo au début de l'ère Meiji vers la fin du 19e siècle. On va laisser le film de côté pour l'instant, donc, pour s'intéresser à ces périodes et à leurs caractéristiques, ainsi qu'à l'évolution de la place du samouraï au sein de la société japonaise. On sort donc un peu des sentiers du film, mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'intéresser à cette période de l'histoire japonaise. Bref, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un samouraï ? À l'origine, c'est un militaire d'élite, un cavalier qui est au service de son seigneur et dédie sa vie au combat. Les samouraïs règnent sur le Japon à partir du XIIe siècle et suivent un code d'honneur très strict, le Bushido, littéralement la voie du guerrier, même si ce nom de Bushido n'apparaîtra que 5 siècles plus tard. Dans ce code d'honneur, si le samouraï apporte le déshonneur sur lui, sur sa famille ou sur ses supérieurs, il doit se faire seppuku, un rite, un suicide, qui consiste à s'ouvrir le ventre à l'aide de son sabre, puisque le ventre chez les japonais est là où réside le courage. Alors qu'on soit clair, hein, le samouraï pour se faire seppuku, il utilise un petit sabre qu'il a en plus de son grand sabre, le katana, parce qu'avec le grand sabre, eh bien ça serait un peu compliqué. Alors ça peut paraître un peu extrême, hein, comme pratique, mais c'est dans leur mœurs, et parfois, eh bien, les shoguns, les chefs militaires donc, sont obligés d'interdire la pratique du seppuku, puisque leurs soldats se suicident systématiquement lorsque leur maître meurt. Jusqu'au XVIe siècle, il n'existe pas de profil type de samouraï. Chacun fait un peu comme il l'entend, et le statut n'est pas clairement délimité, ce qui changera considérablement à l'époque Edo. Cette précision faite, on va se replonger au milieu du 15e siècle où deux grandes familles, les Hosokawa et les Yamana, sont très fortes dans le pays et se battent pour le pouvoir. C'est la guerre civile d'Honin qui dure près de 10 ans et qui voit des centaines de milliers de soldats s'affronter. Au terme de ce conflit, le territoire est profondément divisé et de nombreux combats éclatent entre les clans, que cela soit pour des causes sociales, économiques ou politiques. C'est ce que l'on nomme la période Sangoku, et pour tout résumer en une petite phrase, eh bien... c'est la merde. Les guerres font des ravages, les famines emportent les civils, et des tremblements de terre viennent tasser tout ça pour finir le boulot. C'est dans ce contexte assez difficile que certains hommes, à partir de la fin du XVIe siècle, tentent d'unifier le Japon. Et quand je dis certains, on retient surtout trois hommes qui sont considérés dans l'histoire comme des unificateurs. Tout d'abord Oda Nobunaga, qui prend la tête de son clan et qui défonce suffisamment d'autres seigneurs pour contrôler une grosse partie du Japon.
Répondez aux questions.
Vous avez pour cela 2 minutes.
Maintenant, passez à la suite du test.